This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason l'histoire ou quand le jazz retrouvait quelques repères, une émission de Gérard Viol et Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Dernier épisode de cette année-là, 1960. Il s'est passé beaucoup de choses en 1960, mais il va se passer un événement marquant qui marquera probablement la deuxième partie du XXe siècle. L'État d'Israël retrouve une de ces personnes qui lui a fait le plus de mal. Il s'agit d'Adolf Eichmann. Le procès qui suivra sera retentissant et posera les bases d'une analyse de ce qui est à jour, de ce que met à jour le nazisme. On se souvient du reportage qu'a pu faire Hannah Arendt de ce procès et du débat extrêmement violent qui s'ensuivit. Dans un document réalisé pour la chaîne Arte, on apprend comment cet homme, Eichmann, qui s'est enfui avec la complicité du Vatican, puisqu'il est sorti d'Europe avec un passeport donné par le Vatican, par le service d'affaires étrangères du Vatican, cet homme s'est réfugié en Argentine. Et normalement, puisqu'il a changé de nom, qu'il a changé de vie, rien n'aurait dû permettre de le retrouver comme bon nombre des autres bourreaux nazis. Et pourtant, un petit détail va faire que cet homme qui pense que plus rien ne pourrait lui arriver, eh bien, va voir sa vie basculer à cause de son fils.
Lothar Hermann est un juif allemand rescapé des camps de concentration et aveugle. Il vit à Olivos, dans la banlieue de Buenos Aires, avec sa femme et leur fille unique, Sylvia. Sylvia rencontre un jour un jeune homme nommé Nicolas Eichmann. Il habite avec sa mère et ses frères dans la rue Chacabuco. Un homme vit également avec eux. Nicolas parle de lui comme de son oncle. Prenant la famille Hermann pour des Allemands comme lui, Nicolas parle librement du rôle de son père chez les SS et explique comment les nazis auraient dû en finir avec les Juifs. En l'écoutant, Lothar Hermann se met à songer que le nom de famille de Nicolas Eichmann ne lui est pas étranger. Soupçonneux, il écrit au procureur juif du district d'Essen, en Allemagne de l'Ouest. Le docteur Fritz Bauer reçoit la lettre de Hermann en octobre 1957. Il informe alors le Mossad israélien que Eichmann pourrait bien se trouver en Argentine.
Et il nous a dit très ouvertement, je ne peux pas compter sur le ministère des Affaires étrangères allemand, ni sur les consulats allemands en Amérique du Sud ou ailleurs dans le monde. Et dans une affaire aussi délicate, je ne peux même pas compter sur les gens que j'emploie dans mon service. Autrement dit, il craignait une certaine réticence à traiter cette affaire. Et aussi qu'Eichmann ne soit informé et ne disparaisse purement et simplement.
Il circule tellement de rumeurs sur Eichmann que Harel accueille cette information avec un optimisme circonspect. Il envoie en Argentine Ephraim Hofstetter, un enquêteur de la police israélienne parlant l'allemand. Celui-ci constate qu'on peut faire confiance à Hermann et à sa fille. Ils ont suivi Nicolas Eichmann jusque chez lui au 4261 rue Chacabuco et ont découvert deux noms sur un compteur électrique. Clement et D'Agusto. Ils ont aussi découvert que le lotissement dont fait partie la maison est enregistré au nom de Francisco Schmidt, un citoyen autrichien. Hermann en est certain. La véritable identité de Schmidt est Adolf Eichmann.
Et c'est donc ainsi que, à cause de son fils, que Adolf Eichmann va être démasqué. Alors il y aura beaucoup de tergiversations parce que les services secrets israéliens ont quelques difficultés à croire que la chose a pu arriver. Et pourtant, peu à peu, les certitudes vont s'établir et le Mossad va monter une opération absolument extraordinaire. Ils vont organiser l'enlèvement, évidemment sans l'autorisation du gouvernement argentin, l'enlèvement d'Eichmann pour le conduire directement en Israël. Alors c'est une opération dont ce service secret est célèbre dans le monde entier. Le Mossad est devenu par la suite un véritable expert. Et donc on va s'approcher le plus près possible d'Eichmann. On va le saisir, le mettre dans une voiture. De cette voiture, on va le mettre dans un avion de ligne privée. Et au-dessus lorsque l'avion va être au-dessus de l'Atlantique, lorsqu'ils vont être bien sûrs qu'ils détiennent Eichmann et qu'ils vont bien arriver en Israël, alors là, ils communiquent avec le gouvernement israélien et donc l'annonce peut être faite. Et le 23 mai 1960, David Ben-Gurion, le premier ministre historique d'Israël, annonce l'enlèvement d'Adolf Eichmann en Argentine. Et il annonce ça à la Knesset qui, évidemment, ovationne le Premier ministre. Et Eichmann atterrira donc sans encombre à Tel Aviv et sera conduit en prison avant que ne commence son procès qui durera près de 2 ans, me semble-t-il. C'est un événement majeur parce qu'à partir de là, va se poser la question de la chasse aux anciens bourreaux nazis, dont le couple Klarsfeld eux-mêmes en Europe vont se faire les champions. Et à partir de là, évidemment, plus aucun bourreau nazi ne pourra dormir tranquille et dormir jusqu'à mourir dans son lit. Alors il y a un autre événement absolument marquant aussi qui va se produire, c'est la rupture diplomatique et réelle entre Cuba et les États-Unis. On sait que déjà ça ne va pas très fort, que Fidel Castro et les Américains ne sont pas en situation d'entente cordiale, loin s'en faut. Et le 4 février 1960, tout se bouscule et la révolution cubaine alors se rapproche de l'Union soviétique et rompt totalement les relations avec les États-Unis. Or Fidel Castro réclame aux États-Unis une assistance économique exorbitante de 30 milliards de dollars qui lui est bien évidemment refusée. Et il se tourne alors vers l'URSS, qui est dirigé à ce moment-là par Nikita Khrouchtchev, qui lui accorde péniblement une aide de 100 millions de dollars et promet de lui acheter les 4 millions de tonnes de sucre que produit Cuba. C'est sa principale activité. Le 8 mai, des relations diplomatiques sont établies entre l'Union soviétique et Cuba. Et Cuba, donc, peut importer le pétrole russe qui lui manque, puisqu'il est obligé de renoncer à celui du Venezuela, sachant que le Venezuela est très proche des États-Unis, au point que les Américains organisent au Venezuela, précisément, au Venezuela et au Guatemala, ils organisent des camps ce qui leur permet d'apprendre le maniement des armes à des opposants qui, un jour, peut-être, redébarqueront à Cuba. On sait que l'histoire a un peu bégayé à cet égard, puisque ça donnera l'histoire de la Baie des Cochons, qui sera un échec retentissant. Le 7 août, Fidel Castro nationalise toutes les entreprises américaines du territoire cubain. Et durant l'été, il nationalise également toutes les banques et 380 entreprises cubaines. C'est alors que le président des États-Unis, qui est Dwight Eisenhower, décrète, lui, l'embargo total sur tous les aspects de l'économie. Et de ce fait, à partir de là, donc dès 1960, Cuba est coupé du monde, à l'exception près qu'ils ont encore quelques relations avec les pays du bloc dit soviétique. Et le 29 octobre 1960, Nikita Khrouchtchev promet, lors d'une interview, de fournir à Cuba des missiles pour prévenir une attaque américaine. Alors là, c'est à nouveau un moment de crise qui se soldera par un grand débat aux Nations Unies le 22 septembre ce sera la morse. Et après donc, cette intervention du 29 octobre, eh bien, le bras de fer entre les États-Unis et l'URSS va durer, et va durer dans les années qui suivent jusqu'à ce que les Russes renoncent totalement à installer ces missiles qui auraient été à quelques kilomètres des côtes américaines, ce qui, bien sûr, était totalement exclu de la part des Américains. Ça aurait pu donner, le cas échéant, une guerre. Alors, dans cette situation de blocus et de grosses difficultés économiques, eh bien, Fidel Castro rebondit, et il rebondit avec une idée assez étrange, étrange peut-être pas totalement, puisque les Chinois lui donnent l'exemple, et il organise la population en milice. Alors, je vous propose d'écouter le commentaire que fait Pierre Dumayet sur des images qui est tourné à l'époque, en 1960, pour 5 colonnes à la une, qui était l'émission de reportage type de l'époque, reportage sur donc cette organisation en milice de Cuba.
Voici des images qui viennent de stupéfier les États-Unis. En les voyant à la télévision la semaine dernière, les Américains ont découvert avec stupeur que Cuba était devenu un pays en armes, comparable, disait le commentateur, aux communes chinoises. Des milices groupent les civils suivant leur profession. Voici la milice des journalistes. La milice des industriels, plus replète. Est-il besoin de le dire, il est obligatoire d'être milicien. Et le mauvais Cubain, qui essaie de se dérober, perd sa place, quelle qu'elle soit. Les filles ne dansent plus, elles marchent. Cuba, qui était réputé pour sa vie nocturne, l'est maintenant pour sa vie militaire. Fidel Castro sait bien qu'il n'est jamais trop tôt pour bien faire, sinon les enfants deviennent des civils, bêtement. Le Tropicana, admirait sa fontaine, était un célèbre cabaret de plein air. Ses pelouses servent maintenant de terrain d'entraînement. Mieux, ses arbres donnent des fusils. Ce qui prouve que le fusil est avant tout un état d'esprit. Enfin, le plus surprenant sans aucun doute, regardez bien ces jeunes gens. Leurs manœuvres d'ensemble sont gauches, peut-être sont-ils un peu étonnés d'avoir été enrôlés. Ce sont des aveugles.
Bel exemple de bêtise bureaucratique que d'avoir enrôlé des aveugles dans une milice. On voit par là les aberrations que peuvent produire un système quand même passablement totalitaire. Alors côté musique, comme je l'ai déjà dit dans quelques précédents épisodes, c'est le tournant également, c'est un moment clé pour le jazz qui se renouvelle. Alors se renouvelle un peu dans toutes ses formes. Évidemment, il y a toujours les grands génies du jazz qui continuent à jouer, les Jerry Mulligan, les Stan Getz, et j'en passe. Mais l'homme du moment, l'homme de l'année, c'est John Coltrane qui, avec 4 albums, est en train de modifier le cours du jazz. C'est aussi Ornette Coleman, dont je t'en passais dans un précédent épisode, le fameux morceau « Free Jazz », qui entraîne le jazz dans une espèce de liberté sans contrainte, sans aucune contrainte, au point que cette musique commence à avoir ses détracteurs, après avoir entraîné un engouement absolument extraordinaire. Alors à côté de cette liberté totale que revendiquent les jeunes musiciens, les nouveaux musiciens, eh bien quelques anciens se regroupent sous la houlette de Miles Jackson, qui est un vibraphoniste, et de John Lewis, le pianiste, pianiste distingué, pianiste cultivé. On disait de lui qu'il était une sorte d'aristocrate du jazz. Et il crée un quartet dont la musique va être probablement, bien sûr, très écrite, mais qui laisse une part encore à l'improvisation et que d'aucuns vont rapprocher de la musique classique. Alors, ce n'est pas du classique en jazz, ça n'est pas du jazz au sens où on l'entendait auparavant. ils inventent une forme nouvelle et à quatre, avec une apparence extrêmement stricte, puisqu'ils sont tous en smoking. Eh bien, c'est le pianiste John Lewis, le vibraphoniste Milton Jackson, le contrebassiste Percy Heath et le batteur Connie Kay, batteur extrêmement élégant également, enregistre en 1960 un très bel album intitulé Pyramide, et dans ce Pyramide, il y a un morceau remarquable, Django. Le Modern Jazz Quartet qui aura une longue, longue carrière, puisque le dernier de ces musiciens jouait encore, John Lewis jouait encore il y a quelques années, à peine deux ans, il jouait de très beaux enregistrements tout seul, en solo, au piano, un musicien tout à fait remarquable. Alors cette année-là, 1960, eh bien, les chanteuses n'ont pas disparu, même si au cours de cette série d'épisodes consacrés à 1960, on n'a pas eu l'occasion d'en entendre. Il en est une qui apparaît, c'est la chanteuse que préférait Miles Davis. Elle s'appelle Shirley Horn, elle chante et elle joue du piano, et Miles Davis adorait le côté intime, le côté un peu chuchoté quelquefois de cette chanteuse extrêmement talentueuse qui a le souci de du détail dans la mélodie. C'est lui qui l'a présentée au club Village Vanguard, et où elle a été engagée plusieurs mois, cette année-là, en 1960. Et Shirley Horn donc, s'inscrit tout à fait dans la tradition d'une grande, grande chanteuse de Lady Day, de Billie Holiday, dont elle interprétait certains morceaux. Et donc, en 1960, elle enregistre à New York un morceau, une composition que jouait très souvent Billie Holiday, dont elle avait composé les textes, God Bless the Child.
Them that's got shall have, them that's not shall lose, so the Bible says, and it's still is news. Mama may have Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Now the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Money you've got lots of friends crowding, they're crowding round your door. But when it's gone and spending ends, they don't come. Rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own.
Shirley Horn, qui s'accompagnait au piano avec Joe Benjamin à la basse et qui joue là merveilleusement glissando avec un très beau son de cette grosse basse qu'utilisait Joe Benjamin, et Herbie Lovell à la batterie, enregistré donc à New York en mars 1960. Alors on ne va pas terminer cette série d'épisodes consacrée à 1960 sans revenir à John Coltrane, dont on va écouter quelques mesures d'un de ses morceaux favoris qu'il a joué presque tout au long de sa vie, en l'occurrence Blue Train.
Mm-hmm.
Voilà, ainsi s'achève ce dernier épisode consacré à l'année 1960, en route vers une année prochaine.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte J.W.R. en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.